Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Et on va démarrer avec ce qui agite la gauche, puisqu'elle est en pleine primaire populaire. C'est l'expression consacrée. Écoutez.
Je dis très clairement que je reconnaissais les règles et le résultat de cette primaire. Et je le fais par anticipation. Je pense aussi qu'il faut que la gauche se rassemble, sinon, nous passons le tour. Bon, voilà, donc chacun assumera le fait de n'avoir pas fait les efforts nécessaires pour que nous ne passions pas, nous, notre tour en termes de capacité d'agir pour la vie des gens.
Christiane Taubira, qui était l'invitée de l'émission C'est à vous sur France 5 cette semaine, et elle est candidate à la primaire populaire, primaire qui a commencé jeudi, qui se terminera demain et qui doit départager 7 candidats de la gauche à l'élection présidentielle. 7 candidats en lice, mais 4 seulement se sont portés candidats volontairement. 4 seulement reconnaissent le processus. D'autres sont impliqués dans ce scrutin. J'allais dire malgré eux, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. Ils ont tous les trois refusé de reconnaître le résultat de ce vote. Gilles, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce processus assez inédit ?
Oui, le processus est inédit d'un point de vue démocratique. On pourra réfléchir après à ce que ça veut dire pour la gauche. Mais d'un point de vue démocratique, je trouve ça symptomatique de l'irruption des citoyens dans la démocratie. C'est vrai de l'initiative elle-même. Jusqu'à présent, la démocratie était pour beaucoup intermédiés par les partis politiques. C'est eux qui désignaient les candidats, c'est eux qui organisaient ces dernières élections des primaires ouvertes. Là, on va au-delà, parce que ce sont des citoyens qui le font, ce ne sont pas les partis, et c'est même fait contre les partis.
Oui.
C'est symptomatique aussi de cette irruption des citoyens quand on voit l'écho que cela a rencontré, qui a honnêtement dépassé beaucoup ce que je croyais, près de 500 000 citoyens qui s'y sont inscrits. Alors évidemment, c'est moins que les primaires ouvertes qui ont été organisées lors des élections présidentielles de 2017, mais c'est beaucoup plus que celles qui ont été organisées par les partis à l'occasion de cette élection. Donc ça, je crois que c'est un élément intéressant. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est les modalités de vote. C'est le fait qu'on ne vote pas comme on le fait traditionnellement pour un candidat, mais qu'on porte une appréciation sur chacun des candidats qui est présenté à l'élection, de l'appréciation la plus passable jusqu'à l'appréciation la meilleure, et désigner celui qui, en moyenne, recueille l'appréciation la plus positive. Ça évite de voter par défaut, ce que l'on voit de plus en plus dans des élections pour un candidat dont on considère simplement qu'il est un moindre mal, et ça évite surtout que l'élu soit un élu qui soit majoritairement rejeté par la population, qu'on ait un accident électoral. Je termine par un dernier point.
Oui.
Ça, c'est ce qui était intéressant. Ce qui est troublant, ce qui est même perturbant, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le processus de sélection. Ceux qui sont candidats, pour certains d'entre eux, ne le voudraient pas. Et ceux qui pourraient l'être, je pense à Fabien Roussel, n'y sont pas. Et que, enfin, le processus de choix se fait sans qu'il y ait de débat, ce qui est quand même aussi le propre de la démocratie.
Natacha Polony.
Alors, premier point, sur la question des modalités, du fonctionnement, en effet, il y a quelque chose d'intéressant. Le principe du jugement majoritaire est assez intéressant. Il avait été testé, d'ailleurs, de façon totalement expérimentale, je crois, à Orsay en 2007. Et à cette époque, si je me souviens bien, c'est François Bayrou qui avait gagné devant Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sur les bureaux de vote sur lesquels le jugement majoritaire avait été expérimenté. Ce qui montre que ça peut changer beaucoup de choses dans une démocratie. C'est assez intéressant. Mais c'est vertigineux. Mais à part ça, ce truc-là est absolument effarant, consternant. Pourquoi ? Parce que ce qui devrait être un moment démocratique est transformé en une machine à vider de sa substance toute pensée politique. Pourquoi ? Parce que le seul programme commun qu'ils aient, c'est l'unité. Vous avez regardé le débat sur France Info. Alors évidemment, il manquait les principaux candidats, hein, c'est normal, puisqu'il y a ceux qui ne veulent pas y être, et il y a Christiane Taubira qui a trouvé que c'était pas la peine d'aller à ce débat, et qui a envoyé un représentant. Donc on avait Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise, enfin, qui sont tout à fait respectables. Et en plus,
les autres candidats.
Pierre Larouturou est quelqu'un qui réfléchit depuis des années. Et là, ça donne un truc où, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on en est à se dire qu'il faut l'unité, qu'il faut qu'on s'aime d'amour, parce que c'est comme ça que la gauche va gagner.
Mais c'est peut-être la question centrale à gauche aujourd'hui, non,
mais non, l'unité n'est pas un programme. La question centrale à gauche, c'est de savoir comment on pense aujourd'hui l'état du monde, quel diagnostic on pose, et selon au nom de quelle valeur, de quelle vision de l'être humain et de la société, on va proposer des solutions. On s'en fiche de l'unité. L'unité, elle viendra si les gens adhèrent à un véritable projet, s'ils voient qu'il y a là une réponse à l'ensemble des crises que nous vivons.
L'unité n'est pas un programme, Gilles.
L'unité n'est pas un programme, j'irai même plus loin que Natacha, l'unité n'est pas nécessairement une solution. Oui, la gauche est sans doute trop éparpillée dans cette élection, mais je pense qu'une candidature unique, qui était l'objectif poursuivi par cette primaire populaire, est à la fois une illusion, parce que les divergences en réalité, notamment avec Jean-Luc Mélenchon, sont trop importantes pour déboucher sur une candidature unique, et sans doute parce que c'est une illusion inefficace. Et que le problème de la gauche, je l'ai déjà dit, ce n'est pas la désunion qui fait la faiblesse, c'est parce qu'elle est faible qu'elle est désunie et qu'il lui faut d'abord proposer une offre électorale. Ouais. Je termine par un dernier point qui est sur, non pas sur les causes de cette primaire, mais sur ses conséquences. Il y a un scénario rose qui est celui promu par ses organisateurs. En gros, il va y avoir une dynamique à l'issue de cette primaire, parce qu'il y aura eu beaucoup de votants, et un peu comme cela s'est passé pour Valérie Pécresse, le vainqueur va se détacher, les autres vont se retirer. Ça, c'est le scénario rose. Et puis, il y a un scénario noir qui n'est pas le plus probable, c'est que l'on passe d'une candidature de toute la gauche, qui était l'objectif initial, à une candidature de plus à gauche. Et là, pour le coup, c'est pas sûr qu'il y en avait besoin.
Encore un mot, Natacha ?
Oui, avec, en un mot, une forme de chantage moral qui est exercée. C'est-à-dire que, en gros, le chantage vis-à-vis des candidats qui refusent de participer à ce petit jeu, c'est de dire « vous serez les causes de la défaite ». On ne voit pas en quoi il serait plus les causes que ce processus qui ajoute in fine une candidature de plus. Chantage moral au sein même de ce processus, puisque on voit bien à quel point les arrière-pensées sont permanentes, et la palme de toute façon de l'ambiguïté revient à Christiane Taubira, qui ne cesse d'éviter de dire ce qu'elle a en tête, ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle se ralliera à n'importe quel candidat s'il gagne, si ce n'est pas elle, alors même que cette machinerie est faite pour la porter, elle. Bref, il y a là certains travers de la politique politicienne qui viennent polluer ce qui, au départ, se voulait une démarche de citoyens. Et encore une fois, l'irruption des citoyens est intéressante. Mais là, je reste perplexe.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Assemblée nationale votait en première lecture un texte intitulé Liberté, texte qui permettra à chacun de changer de nom à l'avenir, changer de nom une fois dans sa vie, remplacer son nom, son patronyme par celui d'un autre parent. C'est une proposition de loi du député La République En Marche, Patrick Vignal, et qui concerne donc à travers le nom et sa transmission, qui touche à un fondement de l'état civil et de l'identité individuelle. Il doit être examiné, ce texte, au Sénat dans une quinzaine de jours avant d'être adopté définitivement avant la fin de la législature. Pourquoi vouliez-vous vous arrêter sur ce sujet, ce texte de loi particulier ? On a beaucoup débattu des prénoms au début de la campagne présidentielle. Maintenant, on en arrive au nom et au patronyme, Natacha.
C'est un sujet absolument passionnant et absolument vertigineux parce qu'il est à la fois juridique, philosophique, anthropologique. Le nom, c'est quelque chose qui nous est profondément intime, qui nous constitue, mais que nous n'avons pas choisi, dont nous héritons, qui est la marque de notre histoire, de ce qui nous précède, de ce qui nous détermine dans un sens. Et c'est donc un rapport entre ce qui nous détermine et notre liberté individuelle. Et en effet, cette loi s'appelle « liberté » parce qu'il s'agit de dire que la liberté individuelle doit prévaloir. Et on comprend, ça répond à un besoin. Ça répond à au besoin de tous ceux, par exemple, de ces mères célibataires, le père est parti, le père a disparu, il n'a n'assument pas, elles veulent que leur enfant porte leur nom. C'est parfaitement compréhensible.
Cela il y a plusieurs raisons.
Oui,
plusieurs raisons, notamment par exemple ceux qui désirent abandonner le nom d'un parent qui aurait été violent, incestueux,
voilà,
absent.
J'allais y venir, bien sûr. Mais on peut remarquer que depuis 1985, la loi autorise à changer de nom. Simplement, c'est un nom d'usage. Là, en fait, ça va modifier l'état civil, qui est ce qui est censé être immuable. Et l'immutabilité du nom, elle date de la loi germinale en 11. Pourquoi ? Parce que sous la Révolution française, au départ, on avait décidé qu'on pouvait changer de nom. Ça avait fichu un bazar absolument hallucinant. Et donc, le législateur est revenu là-dessus, avec cette idée qu'il y a une fixité, qu'il y a quelque chose qui doit se perpétuer et permettre en plus à l'État de savoir à peu près où on en est. C'est pas gravissime en soi de dire qu'on va donner une liberté, parce que c'est très encadré. C'est...
Oui.
En revanche, la question qui se pose derrière, c'est de savoir quelle est en gros la part de nous que nous ne maîtrisons pas. Et comment fait un individu pour se construire face à la part qu'il ne maîtrise pas, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile dans une société individualiste, où l'on voudrait finalement tout maîtriser et être un peu auto-construit. Le nom ne fait donc plus partie des choses que nous ne maîtrisons pas, nous pouvons en partie le choisir. Le corps devient quelque chose que nous choisissons. Réfléchissons aussi à la question de savoir si ça nous fait tant de bien que ça, et si finalement cette dimension, cette illusion de liberté totale ne nous fait pas croire que nous pourrions évacuer ce qui nous pèse, alors qu'en fait, on le porte toujours avec soi.
Gilles Finkelstein, si vous deviez changer de patronyme, lequel choisiriez-vous ?
Je suis très content du mien.
Et vous avez raison.
Il y a sur cette histoire un quiproquo dont j'ai été moi-même victime en commençant à réfléchir à notre discussion. Ce quiproquo, il tient peut-être à la formule qu'a utilisée le garde des Sceaux juste avant les vacances de Noël, en disant « chacun devrait pouvoir choisir son nom de famille une fois dans sa vie ». Et ce qui a été repris par les titres de presse, c'est une loi sur le changement de nom. Et mon premier réflexe face à ça, et je m'étonnais moi-même, était plutôt un réflexe conservateur en trouvant qu'on allait trop loin dans la société des individus et dans répondre aux désirs de chacun. La réalité de ce texte n'est pas celle-là. Il vient, Natacha l'a dit, d'une histoire dans laquelle il y avait une fixité du nom, c'est-à-dire que vous aviez le nom de votre père et il était très difficile d'en changer. Ce système a été assoupli, notamment grâce à la gauche. Natacha l'a évoqué, en 1985, François Mitterrand, on pouvait changer le nom d'usage. Et en 2002, avec Lionel Jospin, c'est le nom de famille, c'est-à-dire vous pouviez accoler au nom du père le nom de la mère.
Oui.
Or, tout le monde constate, et ça a été reconnu quand vous lisez les débats parlementaires de cette semaine, même par ceux qui sont opposés à ce texte, qu'il y a des problèmes considérables qui demeurent, que pour changer de nom, c'est-à-dire pour accoler le nom de son père, de sa mère, ou pour changer le nom du père en nom de la mère, c'est un parcours du combattant.
Procédure longue et humiliante, disait le garde des Sceaux.
C'est compliqué, beaucoup de pièces à apporter, c'est douloureux, ça oblige à dévoiler des raisons très intimes, et c'est aléatoire. Donc tout le monde reconnaît ça. Et ce qu'apporte le projet de loi, c'est relativement limité, mais c'est important pour les enfants. Pour les mineurs au-dessus de 13 ans, c'est la possibilité d'utiliser comme nom d'usage le nom de la mère, avec le consentement des enfants, avec le consentement des parents ou du juge des affaires matrimoniales. Et pour les adultes, c'est ça le changement principal, la possibilité d'avoir le deuxième nom, le nom de la mère généralement, soit en plus, soit à la place, sans avoir à se justifier pour le faire. Donc c'est ça, d'une certaine manière ce n'est que ça, la seule question que je me pose, c'est sur, peut-être est-ce même trop facile, trop rapide de le faire, et que ça peut conduire à des choix irréfléchis, mais à cette réserve-là, qui peut être améliorée dans le processus parlementaire, je crois que c'est un bon texte.
Et il y a malgré tout des contraintes, pas de noms fantaisistes, disent les députés qui ont voté le texte. Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Quand je dis qu'il faut réfléchir à la baisse des charges au-dessus de 2,5 SMIC. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que si vous voulez à la fois réindustrialiser le pays et monter en qualification, il faut que les employeurs soient incités à avoir des salariés plus qualifiés, mieux formés. C'est comme ça qu'on tirera les salaires vers le haut et c'est comme ça qu'on répondra aux problèmes de pouvoir d'achat que se posent les Français. Par le travail bien qualifié et par le travail bien rémunéré.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il était l'invité de France Info lundi. La question du pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui la première préoccupation des Français dans cette campagne présidentielle avec une vraie question au fond. Natacha, augmenter le pouvoir d'achat, mais par quel levier, comment? Et c'était donc la proposition de Bruno Le Maire qui invitait à penser à long terme et donc d'insister sur les qualifications et le travail.
Alors, cette question du pouvoir d'achat, elle est à la fois majeure et extrêmement piégeuse. Elle est majeure et on le voit, c'est la préoccupation, et de loin la préoccupation première des Français actuellement. Il y a une, on l'a déjà évoqué ici, une baisse, on va dire, du reste à vivre. C'est-à-dire que même si on peut, dans des calculs, analyser le fait que le pouvoir d'achat global aurait augmenté, les dépenses contraintes ont largement augmenté depuis quelques années et donnent donc cette idée qu'il n'y a pas de possibilité pour notamment les plus bas salaires, les Français les plus défavorisés, de tout simplement vivre correctement et même vivre de leur travail. Tout le problème est que cette question est piégeuse. Pourquoi ? Parce que cette question s'est invitée dans de nombreuses campagnes présidentielles. Il faut se souvenir notamment de celle de 2007, où la question avait été en partie au cœur de la campagne. Mais
travailler plus pour gagner plus.
Penser le pouvoir d'achat décorrélé de la façon dont on produit est une erreur majeure. Si on ne parle que pouvoir d'achat, on se moque de ce qui, là aussi, détermine à long terme et même à moyen terme la réussite et la performance d'un pays. La France a une balance commerciale qui est monstrueusement déficitaire. Augmenter le pouvoir d'achat sans penser la production, c'est appauvrir le pays et donc à long terme gréver le pouvoir d'achat de ceux qui est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, il faut aujourd'hui essayer de répondre. Les réponses à court terme ne sont pas forcément évidentes. Par exemple, l'augmentation du prix du carburant est quelque chose sur lequel l'État peut agir en baissant les taxes. Voilà. Ouais. Mais de toute façon, on ne peut pas dire que ça va se régler en lissant les prix, puisque, a priori, nous n'avons pas de maîtrise sur le prix des carburants. Sur la production alimentaire, par exemple, l'Europe et la France sont en train de perdre leur autonomie alimentaire, ce qui est particulièrement inquiétant. Les réponses en termes purs de pouvoir d'achat incitent à amplifier ce phénomène en allant se fournir ailleurs, puisque dans un système où la grande distribution est le principal vecteur de vente de produits alimentaires, vous avez une pression sur les producteurs en France.
Donc, et on voyez que le problème, baguette justement la semaine
bien
dernière.
Sûr. Donc le problème doit être pensé globalement, et je pense qu'on en parlera avec Jean-Marc Jancovici de la question d'une pensée systémique qui est absolument nécessaire. Donc des réponses par petites touches, des réponses immédiates et faciles ne sont pas les bonnes réponses.
Et justement, avant d'ouvrir le débat avec notre invité Jean-Marc Jancovici, Gilles Finkelstein.
Écoutez, au départ, il y a quand même un extraordinaire paradoxe. Quand vous regardez ce que sont les données, aussi bien de la direction du Trésor, de l'OFCE, de l'Institut des politiques publiques, elles montrent une progression du pouvoir d'achat sur ces 5 dernières années, de 1 à 2% par an, pour l'immense majorité, 90% des Français. Et bien, au même moment, lorsque vous demandez à ces mêmes Français leur perception, est-ce qu'au cours des dernières années, leur pouvoir d'achat a augmenté, eh bien, vous n'en avez que 9% qui disent que ça s'est amélioré. Alors comment on explique ça? Natacha a évoqué une des explications qui est le poids des dépenses contraintes. Il y a une autre explication qui est de ne pas regarder l'évolution, mais qui est de regarder le niveau des revenus. Lorsque vous avez 12 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté monétaire, selon l'INSEE, ça veut dire que l'évolution du pouvoir d'achat n'est pas perçue, tout simplement parce qu'elle n'est pas perceptible lorsque vous gagnez 1 000 euros par mois et que vous avez 10 euros d'augmentation, eh ben, c'est peu perceptible. En revanche, au-delà des causes, cette situation a une conséquence, et là, on la voit, et je pense qu'il faut la souligner dans cette campagne, c'est que
Vous disiez tout à l'heure que le pouvoir d'achat était la première préoccupation. C'est aujourd'hui une préoccupation écrasante. Il y a presque un an, en avril, lorsque nous avons lancé le panel électoral, 30% des Français plaçaient le pouvoir d'achat en première priorité, mais on était juste devant les autres priorités.
Oui.
Aujourd'hui, on est à 44%, 15 points devant la santé, 20 points devant l'immigration. C'est vrai dans tous les électorats. On passe d'une campagne dans laquelle on était dans une campagne de figure libre. Chacun pouvait essayer d'amener la campagne sur son terrain à une campagne de plus en plus de figure imposée dans laquelle le sujet majeur, c'est le pouvoir d'achat.